Mon père, l'empereur Padishah, me prit un jour par la main et je sentis, grâce à ce que ma mère m'avait enseigné, qu'il était troublé. Il me conduisit à l'extrémité de la salle des portraits, jusqu'au simulégo du duc Leto Atréide. Je notai la ressemblance frappante qui existait entre eux, entre mon père et l'homme du portrait. Tous deux avaient le même visage fin, rassé, les mêmes traits acérés, le même regard froid. « Princesse, ma fille, » dit mon père, « j'aurais aimé que tu sois plus âgée lorsqu'est venu pour cet homme le moment de se choisir une femme. » Mon père avait 71 ans alors, et il ne paraissait pas plus vieux que l'homme du portrait. Je n'avais que 14 ans, mais je me souviens d'avoir compris en cet instant que mon père avait souhaité en secret que le duc fût son fils et qu'il haïssait les nécessités politiques qui faisaient d'eux des ennemis. Extrait de « Dans la maison de mon père » par la princesse Irulan. Le docteur fut bouleversé par sa première rencontre avec ceux qu'on lui avait ordonné de trahir. Il se vantait d'être un scientifique pour qui les légendes ne représentaient qu'autant d'indices intéressants sur les racines d'une culture. Et pourtant le garçon correspondait si exactement à l'ancienne prophétie. Il avait les yeux quêteurs et l'attitude de réserve candide. Certes, la prophétie ne précisait pas si la déesse mère devait arriver en compagnie du Messie ou si elle l'introduirait sur la scène quand le temps serait venu. La relation pourtant n'en était pas moins étrange entre ces gens et les prédictions. La rencontre eut lieu dans la matinée, près du bâtiment administratif du terrain de débarquement. Un ornithoptère sans marque distinctive était posé à l'écart. Il bourdonnait doucement, comme un gros insecte somnolent. Un garde atréide était posté devant, l'épée au clair, et tout autour de lui, l'air vibrait de la présence invisible du bouclier. Kynes eut un sourire furtif et songea « Là, Arrakis leur réserve une surprise. » Il leva la main et ses gardes Fremen s'immobilisèrent derrière lui. Il continua seul d'avancer vers l'entrée de l'immeuble, trou noir dans le rocher revêtu de plastique. Cette construction monolithique était bien vulnérable, pensait-il, et bien moins sûre qu'une caverne. Son attention fut alors attirée par un mouvement et il s'arrêta pour ajuster sa robe et la fixation de l'épaule gauche de son distir. Les portes s'ouvrirent et des gardes atréides en surgirent, lourdement armés, épées, boucliers, tétaniseurs à charge lente. Un homme de haute taille venait derrière. Sa peau et sa chevelure étaient sombres et ses traits étaient ceux d'un oiseau de proie. Il portait une cape jeba ornée de l'emblème des atréides sur la poitrine. Et ses mouvements révélaient qu'il n'était pas accoutumé à ce vêtement. Il lui manquait une certaine souplesse, un certain rythme aisé. Sur le côté, la cape adhérait aux jambes de son distir. À ses côtés s'avançait un jeune garçon à la chevelure également sombre, mais aux traits plus ronds. Kynes savait qu'il avait 15 ans, et il lui semblait un peu petit pour cet âge. Mais son jeune corps donnait pourtant une impression d'assurance, de commandement. Comme s'il avait le pouvoir de discerner, de connaître des choses qui, tout autour de lui, demeuraient invisibles aux autres. Il portait la même cape que son père, avec, cependant, une désinvolture pleine d'aisance, qui donnait à penser que c'était là l'effet d'une longue habitude. Le Mahdi aura connaissance de choses que d'autres ne sauraient voir, disait la prophétie. Kynes secoua la tête et pensa « Ce ne sont que des hommes. » Il y avait quelqu'un d'autre avec le père et le fils. Kynes le reconnut, Gurney Alec. Il était lui aussi vêtu pour le désert. Kynes dut respirer profondément pour chasser le ressentiment qu'il éprouvait à l'égard de celui qu'il avait entretenu du comportement qu'il devait avoir en face du duc et de son héritier. « Vous pouvez appeler le duc monseigneur ou sire. Noble né est également correct, mais réservé en général pour des circonstances plus strictes. Il convient de dire « jeune maître » ou « monseigneur » ou « fils ». Le duc est un homme de grande clémence, mais peu enclin à la familiarité. Et tandis que le groupe continuait d'approcher, Kynes se dit ils apprendront bien assez tôt qui est le véritable maître d'Arrakis. Ordonneront-ils que je sois questionné pendant une moitié de la nuit par le Mentat? Vraiment? Espèrent-ils que je les guide pour une inspection des gisements d'épices? Vraiment? Ce qu'impliquaient les questions d'Awat n'avait pas échappé à Kynes. Il voulait les bases impériales. Et il était évident qu'il tenait leurs renseignements d'Idaho. J'ordonnerai à Stilgar d'envoyer la tête d'Idaho à son duc, se dit-il. Il n'était plus qu'à quelques pas de lui maintenant, leurs bottes craquant dans le sable. Kynes s'inclina. Monseigneur, duc. Leto, tout en approchant, n'avait pas cessé d'étudier la silhouette solitaire qui les attendait auprès de l'ornithoptère. Haute, mince, prise dans la tenue du désert. Robe, distille, bottes basses. L'homme avait rejeté en arrière le capuchon de la cape et le voile pendait sur un côté de son visage, révélant une longue chevelure couleur de sable, une barbe clairsemée. Ses yeux, sous les sourcils épais, étaient ceux insondables des Fremen, bleus dans le bleu. Des traces sombres marquaient encore ses orbites. « Vous êtes l'écologiste, » dit le duc. « Ici, nous préférons l'ancien terme, monseigneur. Planétologiste. »
« Comme vous le voudrez. »
Le duc regarda son fils.
« Paul, voici l'arbitre du changement. Celui qui tranche les disputes. L'homme qui a été placé ici pour veiller à ce que soient respectées les formes, en vertu de notre pouvoir sur ce fief. »
Il se tourna vers Kynes.
« Voici mon fils. »«
Monseigneur, » dit Kynes.
« Êtes-vous Fremen ?»
demanda Paul.
Kynes sourit. « Je suis admis au siège et au village, jeune maître, mais je suis au service de Sa Majesté. Je suis le planétologiste impérial. »
Paul hocha la tête, impressionné par l'apparence de puissance de cet homme. Alec le lui avait montré depuis l'une des plus hautes fenêtres du bâtiment.
Cet homme, là-bas, avec l'escorte Fremen, celui qui marche vers l'ornithoptère, maintenant.
Et Paul avait brièvement examiné Kynes à la jumelle, notant la bouche mince et droite, le front haut. Alec lui avait soufflé à l'oreille.
Bizarre bonhomme, lorsqu'il parle, ses mots sont comme coupés au rasoir. Tout est net. Ses paroles n'ont pas de frange.
Et le duc, derrière eux, avait ajouté le genre scientifique. Et maintenant, à quelques pas de Kynes, Paul percevait sa puissance, l'impact de sa personnalité. C'était comme si l'homme était de sang royal, né pour commander.
« Je crois que nous vous devons des remerciements pour nos distilles et nos capes, » dit le duc.
« J'espère qu'ils vous conviennent, monseigneur, » repartit Kynes. « Ils sont de fabrication Fremen et ils devraient correspondre aux mesures qui m'ont été données par votre homme, Alec, ici présent.
« J'ai été ennuyé d'apprendre que vous ne pouviez nous accompagner dans le désert sans que nous soyons ainsi vêtus. Nous pouvons apporter beaucoup d'eau. Nous n'avons pas l'intention de nous absenter longtemps, et de plus, nous disposerons d'une couverture aérienne, l'escorte que vous pouvez apercevoir au-dessus de nous. Il est peu probable que nous soyons contraints de nous poser. »
Kynes le regarda. Il voyait toute la graisse pleine d'eau qui enveloppait cet homme. Il parla, la voix froide.
On ne parle jamais de probabilité sur Arrakis. On ne parle que de possibilités.
Alec se raidit. On dit monseigneur ou sire au duc.
Mais Leto lui adressa le signe privé qui lui intimait l'ordre d'abandonner, et il dit
« Nous sommes neufs ici, Gurney. Nous devons faire des concessions. Comme vous voulez, sire. »
« Nous sommes vos obligés, docteur Kynes, » reprit Leto. « Nous n'oublierons pas ces vêtements et le souci de notre bien-être dont vous avez témoigné. » Impulsivement, Paul cita la Bible catholique orange. « Tout cadeau est la bénédiction de celui qui donne. » Les mots parurent résonner très fort et très longuement dans l'air immobile. Les Fremen que Kynes avait laissés dans l'ombre du bâtiment s'éveillèrent et surgirent alors avec des murmures excités. L'un d'eux cria clairement « Liran al-Raib !» Kynes se retourna
et fit un geste impératif pour les repousser. Ils reculèrent en continuant de murmurer entre eux et regagnèrent l'ombre du bâtiment.
« Très intéressant, » dit le duc.
Le regard de Kain était dur.
Il alla du père au fils. La plupart des gens du désert sont superstitieux. Ne leur prêtez pas attention. Ils ne vous veulent aucun mal.
Mais dans le même instant, les mots de la légende lui revenaient. Ils t'accueilleront avec les mots saints et tes cadeaux seront une bénédiction. Et soudain, une définition de Kain se cristallisa dans l'esprit de Leto. Une définition en partie fondée sur le bref rapport verbal d'Awat.
L'homme est gardé et méfiant.
Kain était un Fremen. Il était venu à eux avec une escorte de Fremen, ce qui pouvait signifier aussi, plus simplement, que ceux-ci vérifiaient leur droit récent de pénétrer librement dans les zones urbaines. Mais cette escorte semblait plutôt quelques gardes d'honneur. Et Kain, par ses façons, était un homme fier, habitué à la liberté, dont le langage et l'attitude n'étaient limités que par sa méfiance. La question de Paul avait été pertinente et directe. Kain était devenu un indigène.
« Ne devrions-nous pas partir maintenant, sire ?» demanda Alec.
Le duc acquiesça. « Je piloterai mon propre orni. Kain peut s'asseoir devant moi pour me guider. Toi et Paul, vous prendrez place sur les sièges arrière. »
« Un moment, je vous prie, » intervint Kain.
« Avec votre permission, sire, je vais vérifier vos tenues. »
Le duc s'apprêta à répondre, mais Kain insista.
Je me soucie de ma propre chair autant que de la vôtre, monseigneur. Je sais quelle gorge serait tranchée si jamais il vous advenait quelque mal tandis que vous m'êtes confié.
Le duc fronça les sourcils et il songea. Quel moment délicat. Si je refuse, cela peut l'offenser. Et cet homme peut représenter pour moi une inestimable valeur. Pourtant, le laisser ainsi pénétrer mon bouclier, porter la main sur ma personne, alors que je sais si peu de choses à son propos. Les pensées couraient dans son esprit, pressées par la décision à prendre.
« Nous sommes entre vos mains, » dit-il enfin.
Il s'avança, ouvrit sa robe, et vit Alec qui se raidissait tout entier, immobile mais prêt. « Et si vous aviez la bonté de nous expliquer ce que sont ces vêtements, vous qui vivez avec eux ?»«
Certainement, » dit Kain.
Il tendit la main sous la robe et vérifia les fixations d'épaule tout en parlant.
À la base, c'est un micro-sandwich, un filtre à haute efficacité doublé d'un système d'échange de chaleur.
Il rajusta les fixations d'épaule.
La couche au contact de la peau est poreuse, perméable à la transpiration qui rafraîchit le corps.
C'est le processus normal, ou presque, de l'évaporation. Les deux autres couches, il resserra la partie pectorale, comprennent des filaments d'échange calorique et des précipitateurs de sel. Le sel est récupéré.
Le duc souleva docilement les bras.
Très intéressant.
Respirez à fond, dit Kain.
Le duc obéit. Le planétologiste se pencha sur les fixations des sels et rajusta l'une d'elles.
Les mouvements du corps, et surtout la respiration, reprit-il, ainsi qu'un certain effet osmotique suffisent à fournir l'énergie nécessaire au pompage.
Il libéra quelque peu la partie pectorale.
L'eau recyclée circule et aboutit dans des poches de récupération d'où vous l'aspirez grâce à ce tube fixé près de votre cou.
Le duc tourna le menton afin de voir l'extrémité du tube.
« Efficace et simple, » dit-il.
« Bonne fabrication. » Kain s'agenouilla pour examiner les fixations des jambes.
L'urine et les matières fécales sont traitées dans le revêtement des cuisses.
Il se releva, tendit la main vers la fixation du cou et souleva une pièce.
Dans le désert, vous porterez ce filtre sur le visage et ce tube viendra dans vos narines, fixé par ces pinces.
Vous respirerez par la bouche au travers du filtre et vous rejetterez l'air par le nez dans le tube. Avec une tenue Fremen en bon état, vous ne devriez pas perdre plus d'un dé à coudre d'humidité par jour, même si vous venez à vous perdre dans le grand erg.
Un dé à coudre par jour, répéta le duc.
Kain appuya un doigt sur la partie du vêtement qui couvrait le front.
Il se peut que le frottement vous irrite ici. Dites-le-moi, je pourrai resserrer la pièce.
Je vous remercie, dit le duc.
Et comme Kynes reculait, il bougea les épaules et prit conscience d'une nouvelle aisance. Le vêtement était plus ajusté et l'irritait moins. Kynes se tourna vers Paul.
Maintenant, voyons pour vous, mon garçon.
Un homme de valeur, songea le duc.
Mais il faudra bien qu'il apprenne à nous donner nos titres.
Paul demeura impassible tandis que Kynes examinait sa tenue. Il avait éprouvé une sensation bizarre en endossant ce vêtement brillant qui craquait au contact.
Sa conscience lui disait avec certitude que jamais il n'avait porté de distille. Pourtant, tandis qu'il s'habillait avec l'assistance maladroite de Gurney, chacun de ses gestes pour fixer les pièces avait été comme naturel, instinctif.
Lorsqu'il avait serré la partie pectorale, par exemple, pour assurer une efficacité maximale de sa respiration, il avait su parfaitement ce qu'il faisait et pour quelle raison. De même en resserrant les pièces du cou et du front, afin d'éviter la friction.
Kynes se redressa et fit un pas de recul avec une expression perplexe.
« Vous avez déjà porté un disti ? » demanda-t-il.
« C'est la première fois. »«
Alors quelqu'un l'a ajusté pour vous ?»«
Non. » »«
Vos bottes de désert peuvent jouer librement aux chevilles. Qui vous a appris cela ?»«
Cela m'a semblé la meilleure façon de les porter. » »«
C'est certainement la meilleure façon. »
Kynes se frotta le menton. Il pensait de nouveau à la légende.
Il connaîtra nos usages comme s'il était né avec eux.
Nous perdons du temps, dit le duc.
Il fit un geste en direction de l'orni et se mit en marche, répondant d'une brève inclination de tête au salut du garde. Il monta à bord, boucla ses courroies de sécurité et vérifia les commandes et les contrôles. L'appareil grinça comme les autres montaient à bord à leur tour.
Kynes ajusta ses courroies.
Toute son attention était concentrée sur le luxe confortable de l'intérieur. Tissu gris vert et doux des sièges, instruments brillants, sensations rafraîchissantes de l'air filtré au moment où les portes se fermaient, où les ventilateurs se mettaient en marche.
Tant de douceur, songea-t-il.
Tout est paré, sire, lança Alec.
L'étau déclencha le flux d'énergie. Il le sentit gagner les ailes qui plongèrent, se relevèrent,
une fois, deux fois.
En 10 mètres de course, ils eurent gagné les airs. Les ailes frémissaient légèrement et les fusées arrière les poussaient en altitude avec un sifflement ténu, selon une pente rapide.
« Au sud-est, par-delà le bouclier, » dit Kynes. « C'est là que j'ai dit à votre maître de sable de rassembler le matériel. »
« D'accord. »
Ils firent route au sud-est, sans quitter la couverture aérienne des autres ornis qui s'étaient immédiatement mis en formation de protection.
« La conception et la fabrication de ces distilles, dit le duc, révèlent un haut degré de sophistication.
« Un jour prochain, je vous ferai visiter une usine de siège, dit Kynes.
« Cela m'intéresserait. Mais je crois savoir que ces vêtements sont aussi bien fabriqués dans certaines villes de garnison. »
Ce ne sont que de mauvaises copies. Sur Dune, tout homme qui désire protéger sa peau porte un vêtement Fremen.
Et il ne perd jamais plus d'un dé à coudre d'eau par jour.
Avec une tenue bien ajustée, soigneusement serrée au front, toutes les fixations assurées, votre dépense d'eau se fait uniquement par les paumes. Vous pouvez porter des gants lorsque vous ne faites pas de travaux délicats, mais dans le désert, la plupart des Fremen préfèrent se frotter les mains avec des feuilles de créosote. Cela ralentit la transpiration.